Moi, ce que je sens surtout, c'est une attente. C'est-à-dire que le vote exprime une volonté de changement. Les gens voulaient que ça change. Et d'ailleurs, c'était le slogan de la campagne de Duterte. Il y a une volonté de changement. Je crois que l'ancienne équipe politique n'a pas saisi. Et actuellement, ben, on attend parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont un peu déconcertés en ce sens qu'il y a des annonces qui sont faites. Et puis ensuite, on revient dessus, il y a des choses qui sont dites, il y a beaucoup de provocations, puis on met de l'eau dans le vin, etc. On ne sait pas trop où on en est, quoi. L'atmosphère générale que je sens autour de moi, c'est vraiment une attente de voir comment ça va se passer, quels sont les gens qui vont être nommés, quel va être le programme qui va être annoncé, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas un grand programme politique qui a été présenté, sinon de lutter contre le crime, de lutter contre la corruption, quitte à rétablir la peine de mort, et puis de soutenir les pauvres. Ça reste quand même aussi très, très vague.
Rodrigo Duterte a eu des mots très grossiers, c'est le moins que l'on puisse dire, envers l'Église, dans un pays à grande majorité catholique. Comment vous percevez ce rapport de tension ?
Honnêtement, j'ai du mal à percevoir ça, et je me sens vraiment étranger dans ce type de campagne électorale où un certain nombre de critères pour nous occidentaux et pour moi français, je suis pas mal perdu dans ce qui s'est passé là. Et quand j'écoute autour de moi et actuellement les commentaires des journaux se dire ben Duterte, il emploie le langage du peuple qui est souvent entier, enfin etc. Il va se perfectionner en rentrant dans la peau de président. Et lui-même a dit à partir du 30 juin, c'est le moment du passage où il sera le nouveau président en activité, ben il changera de ton, il promet même d'aller au Vatican pour s'excuser, etc. Donc on est toujours face à ce personnage très difficilement qualifiable. Ici on emploie le terme « unorthodoxe », il n'est pas orthodoxe, il est vraiment spécial. On dit, ben, vous voyez, il est très populaire, il parle comme le peuple, et surtout comme le peuple du Sud, contre le peuple stylé de la ville de Manille et de l'oligarchie. Et donc, c'est aussi ça qui l'a fait gagner. Moi, je suis choqué, personnellement, de la façon dont ça se passe, comme je suis choqué par les gens qui passent maintenant d'un parti de l'opposition et essaient de rejoindre la coalition du nouveau président. Je suis un peu perdu, quoi.
En dehors de la forme, sur le fond, le président philippin a dit qu'il allait avoir une politique à l'opposé de ce que prône l'Église. Vous pensez que cela va être accepté par les catholiques philippins qui ont voté pour lui ?
Je ne sais pas s'il va mettre cela en action, ou est-ce que c'est de l'ordre de cette provocation qu'il a utilisée pendant l'ensemble de la campagne, parce qu'il doit bien tenir compte aussi de la majorité des gens. Il n'a pas été élu par une majorité. Il a été bien élu, c'est un des présidents sans doute le mieux élu, mais il n'a pas la majorité. Mais en face, on sent un peu, comme si les gens étaient un peu chaos. Hein. Actuellement, les évêques sont très silencieux. Si on va sur la page de la conférence épiscopale, c'est quand même le silence. Il y a simplement la déclaration qui était faite juste après les résultats de dire que l'Église va collaborer d'une façon critique à ce nouveau gouvernement. Il y a eu une réflexion par rapport à une condamnation de remettre en place la peine de mort. Mais à part ça, je crois qu'il y a beaucoup de consultations. Les gens essaient de voir ce qui va se passer. Personne n'a envie d'un affrontement. Tout le monde dit on veut la paix. Enfin, surtout l'Église, elle dit elle veut la paix. Actuellement, la réponse de Duterte et de son équipe n'est pas clair. Il faut ensuite compter aussi, je pense, sur d'autres forces sociales, qui sont les ONG, donc les organisations non gouvernementales, qui sont proches des pauvres, qui sont impliquées dans le travail social. Jusqu'à présent, là aussi, il n'y a pas eu trop de choses qui ont été émises, il n'y a pas eu trop d'opinions qui se sont dites. On est là dans une période, je crois, un peu d'attente.
Alors, vous avez dit que le président philippin avait été élu parce qu'il y avait une volonté de changement par rapport à quoi ?
Ce qu'il a promis, c'est d'arrêter la corruption, d'arrêter surtout la violence, donc les crimes, la drogue, d'aider davantage les pauvres. Et c'est vrai que le gouvernement précédent, il a fait des choses sur la corruption, etc. Il y a eu comment dire, au niveau économique, un très très grand progrès, mais la répartition n'a jamais été faite. Et je crois que Duterte a su compter sur cette très très grande frustration d'une majorité de gens et des plus pauvres, et aussi donc de catholiques, qui n'ont pas vu le changement qu'ils souhaitaient lorsqu'ils avaient élu Pinoy comme président. Duterte a été élu avec des voix catholiques. Donc des catholiques ont voté pour lui, malgré tout ce que les évêques ont dit, malgré tout ce que des groupes ont dit dans les églises, par rapport à son comportement personnel, par rapport à ce qu'il veut faire pour, comme il dit clairement, je vais tuer les criminels, par rapport à la peine de mort qu'il veut rétablir. Donc il y a toute une série d'éléments où l'Église a été très claire là-dessus, et pourtant, des catholiques ont voté pour lui. Et les analyses que j'ai lues un peu autour de moi, parce que j'essaie vraiment de comprendre ce qui s'est passé là, c'est que les gens ont été excédés parce que le changement ne s'est pas fait, et que la différence entre les riches et les pauvres, il restait le même. C'est-à-dire, on voit un pays qui se développe, et notamment une capitale qui se développe, on voit ça très nettement dans les constructions, dans les tours qu'il y a, on dirait que c'est vraiment, le progrès est là, et pourtant, les bidonvilles persistent, les pauvres augmentent, et donc il y a là un vrai problème. Et je pense qu'au niveau des évêques, ils devront aussi s'interroger sur toute l'action pastorale qui est menée, et éventuellement l'éducation des fidèles. Il n'y a pas eu de discussion dans la campagne électorale sur quel est le plan économique, comment on va s'en sortir. Et d'ailleurs, personne n'a dit comment ils pensaient résoudre le problème du trafic. On a dit on va le résoudre, mais personne ne dit comment. Et on sait que dans le passé, beaucoup d'économistes se sont cassés les dents sur ce dossier-là. Mais la campagne électorale ne s'est pas jouée là-dessus. Elle s'est jouée sur un ton, elle s'est jouée sur des promesses et je dirais même sur un langage. C'est lors de la provoque, les gens applaudissaient, et même parmi eux des cathos. Moi, j'en étais un peu meurtri de voir ça, quand il faisait ses blagues sur le viol d'une missionnaire australienne dans la prison de Davao. Enfin, c'était tellement gros, tellement lourd, et pourtant, ça passe, on l'excuse, et puis lui-même, il est très fort au niveau des médias. Il dit, vous voyez, moi, j'ai des maîtresses. Oui, j'ai des maîtresses, mais moi je le dis alors que les autres en ont et ils ne le disent pas. Il jouait ce côté très, très populaire, et un des éléments de l'analyse qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il a vraiment, son équipe a joué très bien des médias sociaux.